Merci beaucoup pour la musique, pour l'adoration. Ça nous prédispose aussi à la parole de Dieu. J'aimerais aussi profiter de cette occasion et de vous remercier parce que je suis très heureux d'être parmi vous. Et même si... Bon, vous dites que vous êtes content d'écouter l'enseignement de la parole de Dieu, mais vous ne savez pas à quel point moi aussi je suis béni. Donc, merci Ruben de m'avoir invité. Et je tenais à vous le dire ce soir, parce que demain, si j'oublie après ça, je ne peux pas me rattraper. Alors, donc, je voulais exprimer ma reconnaissance envers le Seigneur aussi d'être parmi vous et de vous dire que je suis vraiment très heureux d'être parmi vous et de participer à cette retraite, à ces questions... faire partie de votre groupe, dans votre réflexion, dans vos réflexions, et de voir aussi votre désir de suivre le Seigneur, de marcher avec lui, c'est très encourageant. Ce soir, j'ai décidé donc de choisir un autre psaume, le psaume 73. Le psaume 73, donc on essaie de voir des psaumes un peu différents les uns des autres. On aurait pu choisir, si on répartit les psaumes dans une douzaine de catégories, il aurait fallu qu'on choisisse 12 psaumes différents, tu vois. Mais je pense que Ruben, l'année prochaine, il va faire une fin de semaine, une semaine entière sur les psaumes, là, tu sais, pour qu'on puisse couvrir tout ça. Voilà, j'ai choisi de parler du doute, parce que le doute, c'est une réalité dans notre vie. Et parfois, nous avons un peu de mal à accepter cette réalité du doute dans nos églises, en croyant peut-être à tort qu'un chrétien ne devrait pas douter, qu'un chrétien de la maturité devrait être fort. Mais bien souvent, la réalité fait que nous doutons. Et en tout cas, quand nous pouvons faire face à cette réalité, la porte est ouverte pour s'en sortir. Alors, je vous invite à lire le psaume 73. On va le lire d'un seul trait avant de s'attarder sur la profondeur du doute du psalmiste, qui dans ce cas-là est Asaph, pour ensuite regarder les sources du doute. C'est important quand nous doutons, non seulement de passer par la profondeur que ce doute provoque dans notre cœur. Ce n'est pas toujours un doute superficiel. Parfois, c'est beaucoup plus profond que nous pouvons le supposer. Mais non seulement de réaliser, d'accepter ce doute, mais c'est aussi de se poser la question, quelles sont les sources du doute? Pourquoi est-ce que je doute? Pour ensuite regarder ensemble l'antidote au doute. Alors c'est un petit peu les trois aspects que j'aimerais regarder avec vous. C'est la profondeur du doute du psalmiste, ensuite les sources de son doute, et ensuite l'antidote au doute. Alors en lisant le psaume maintenant, on pourrait tout un petit peu avoir ces trois aspects dans la tête, et probablement qu'en le lisant, vous allez déjà repérer dans le texte certains éléments de réponse à ces trois aspects que nous allons couvrir ensemble. Verset 1er, psaume d'Asaph, toujours dans la Bible de Genève. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, alors la tension commence. Toutefois, mon pied allait fléchir. Ou j'étais sur le point de chuter, selon certaines versions. Mais pas été sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi, l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. J'aime bien l'expression parfois dans les psaumes, le genre d'image qu'ils utilisent. Leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment. Il dit, comment Dieu sourit-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants. Toujours heureux, ils accroissent leurs richesses. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Au moins, il a réfléchi. Verset 17, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes. Tu les fais tomber, les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, exterminés par une faim soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans ta gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et de mon partage. Car voici ce qui s'éloigne de toi périsse. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Intéressant, hein, de suivre le mouvement du psaume et de voir comment il se termine. Et de voir que face à ce doute qui l'assaille, mais c'est pas un petit doute, hein. Face à ce doute qui l'assaille, il y a un tournant dans le psaume. Et vous avez certainement repéré le tournant au verset 17. Jusqu'à. Hein, j'ai souffert. Jusqu'à. Et qu'est-ce qui a provoqué le revirement dans l'expérience du psalmiste? C'est lorsqu'il a pénétré dans le sanctuaire de Dieu. La présence de Dieu dans notre vie, c'est le moyen par lequel nous pouvons connaître des revirements dans nos périodes de crise. C'est, ça ne veut pas dire que la crise va nécessairement partir. Parfois oui, bien sûr. Parfois non. Mais n'empêche que c'est dans la présence de Dieu que nous pouvons expérimenter un renouveau, une nouvelle perspective face à ce que nous vivons. Alors avant d'aller plus loin, il faut que je sois extrêmement pratique là. J'ai jusqu'à quelle heure ce soir-là? Je suis un peu perdu dans mes horaires. 7h30, d'accord. Merci beaucoup. Alors regardons pour commencer la profondeur de son doute. Alors le psalmiste commence tout d'abord en disant au verset 1er, « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. » Alors en écoutant ces paroles, on se dit « Bon, il va nous parler de la bonté de Dieu, t'es. Il va nous parler de sa fidélité, il va nous parler de sa grâce, de sa bienveillance, sa compassion, son amour. » Et il va nous parler de l'importance d'avoir le cœur pur. Mais tout de suite, après le verset 1er, il nous place dans une tension. Toutefois, mon pied allait fléchir. Et là, nous voyons que c'est sérieux, parce que ce qu'il vit, c'est tellement fort qu'il était sur le point de tomber, était sur le point de glisser. Et c'est vrai que le thème qui est développé dans le psaume 73, c'est un thème qui relève une occasion de chute que nous retrouvons dans la vie de plusieurs chrétiens. Comment ça se fait? Moi qui suis juste devant Dieu, comment ça se fait que moi je souffre et que les méchants semble prospérer. C'est exactement l'expression, enfin la réalité de l'expérience du psalmiste. Et ce doute est tellement fort, non seulement il est presque tombé, il a failli fléchir, il a failli glisser, il a failli tomber. Le verset 13 nous dit, il a presque conclu en la vanité de sa purification. Ça va loin, hein ? Avant de parler un petit peu de ce verset 13, j'aimerais revenir au verset 2. Vous avez un bon exemple de parallélisme synonymique au verset 2. Mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. C'est-à-dire que vous avez les deux parties du vers qui disent exactement la même chose. Et le répètent. Hein. Donc, comme on l'a dit hier, le parallélisme, c'est un élément de la poésie hébraïque, et surtout quand c'est synonymique, pour insister sur une vérité qu'on répète deux fois. Alors, comme je vous ai dit, il y a des parallélismes antithétiques qui présentent plutôt l'inverse. Hein. Mais là, on est en présence d'un parallélisme synonymique. Alors, verset 13. Verset 13, il a presque conclu, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Alors c'est tellement, tellement fort son expérience que le verset 13, en soulignant la vanité de la purification de son cœur, ça c'est un élément qui est tellement important dans l'Ancien Testament. Dans la relation qu'on a avec Dieu, d'être purifié. Tout le système du Lévitique était bâti sur la purification, c'est-à-dire sur la possibilité d'obtenir le pardon de la part de Dieu, d'être lavé de nos péchés. T'sais. C'est au cœur de notre relation avec Dieu. Sans purification, sans pardon, il n'y a pas de relation avec Dieu, parce que Dieu est le péché. Et en fait, ce qui bloque bien souvent notre relation avec Dieu, ce qui bloque la joie de notre salut, c'est le péché. Et là, Asaph, dans son psaume, il nous dit, avec tout ce que je vis, là, j'arrive à la conclusion que c'est en vain que j'ai purifié mon cœur. C'est intéressant parce qu'il avait peut-être une perspective un peu étrange de la raison pour laquelle on se purifie. T'sais. Est-ce qu'on se purifie devant Dieu pour y gagner quelque chose, outre que le pardon, t'sais. Est-ce qu'on se purifie devant Dieu pour pouvoir mener la grande vie, avoir de l'argent, puis avoir une vie facile, puis être repu? Et puis, pour quelle raison est-ce qu'on se purifie, t'es, devant Dieu? En fait, il avait perdu, le psalmiste, la raison pour laquelle il s'était purifié devant Dieu en regardant le méchant, imaginez-vous, en prenant comme modèle la vie du méchant. C'est-à-dire, le méchant, c'est celui qui est sans Dieu, hein, celui qui mène sa vie comme être autonome, loin de la volonté de Dieu. C'est ça le méchant, t'es. Et là, il arrive au point où il considère que sa purification est inutile. Ça va loin, hein, son doute. Ça influence sa façon de penser. Ça distorsionne ses valeurs. Et bien souvent, quand on est dans le doute, c'est ce qui arrive. Hein, nous remettons en cause notre propre perspective chrétienne. Nous remettons en cause notre vision chrétienne du monde. En pensant que notre service, notre purification a été inutile. Donc le doute, il faut le traiter, là, c'est sérieux. Là. Et ce que vit le psalmiste, c'est sérieux. Et nos doutes sont sérieux, il faut les traiter. En fait, c'est normal, d'un certain sens, d'avoir des doutes. Mais de ne pas traiter les doutes, ça, c'est grave. T'sais. Parce que ça peut nous entraîner vraiment à notre perte. Et malheureusement, comme j'ai dit tout à l'heure, des gens semble avoir abandonné la foi, hein, à cause du doute, semble être tombé à cause du doute. La profondeur de son doute se manifeste aussi au verset 14, où il nous dit « Chaque jour, je suis frappé, tous les matins, mon châtiment est là. » Alors, là encore, vous avez un parallélisme qui insiste sur la même idée, c'est que sa souffrance, elle est continuelle. Elle est vraiment continuelle. Peut-être qu'il se plaint un peu, peut-être qu'il se prend en pitié dans cette situation-là. Chaque jour, ce doute l'assaille. Chaque jour, il voit ses méchants qui prospèrent. Tous les matins, quand il commence sa journée, il commence avec ça. Donc, vous voyez, ça envahit tout son être. C'est ça que ça veut dire, là. Ça envahit toute sa personne. Il ne peut pas prendre du recul. Il est complètement plongé là-dedans. Et ça le perturbe profondément. Ça, c'est le genre de doute qu'il est en train de vivre. Et au verset 22, il va reparler de son doute. Vous voyez que c'est important quand on lit la Bible, les psaumes, puis qu'on fait ça verset par verset, puis on essaie de mettre dans nos propres mots le verset, là, on arrive à voir, à faire le lien entre plusieurs versets qui parlent de la même chose dans les psaumes, mais ils ne sont pas toujours collés ensemble. Et il faut avoir une vue globale du psaume pour pouvoir repérer là, ah tiens, il parle de ce thème ici au début, un petit peu plus loin, il revient avec le même thème, un petit peu plus bas, il revient avec le même thème, ça nous permet de, surtout quand on veut faire des études bibliques, là, de peut-être classifier le psaume de manière un peu plus thématique. Hein, parce que pour nous, la poésie, ce n'est pas la même chose que la poésie hébraïque. Tu sais. Donc pour nous, quand on étudie, ben, parfois il faut réagencer, reclassifier les différentes idées qui se retrouvent dans le psaume. Et on en fait donc une présentation qui est structurée un petit peu différemment que le psaume, mais qui reste fidèle tout de même à l'enseignement du psaume. Tu sais. Alors ici, au verset 22, oui, 22. J'étais stupide et sans intelligence. Ça, c'est intéressant. Hein, il n'y a pas grand monde qui va confesser qu'il est stupide. Peut-être on veut dire, ouais, on a fait une petite erreur. Ben, dire j'étais vraiment stupide, sans intelligence. Et il va même plus loin. Il dit, j'étais à ton égard comme les bêtes. Je veux dire, ce n'est pas très flatteur pour celui qui a été fait de peu inférieur aux anges d'admettre qu'il était à l'égard de Dieu comme les bêtes. Donc il réalise dans cette section du psaume la profondeur de son égarement. Et il confesse dans ce passage-là sa propre stupidité. C'est tellement intéressant ça. Quand on souffre, on a besoin de quoi ? On a besoin de quelqu'un qui entende notre souffrance, qui fasse du reflet pour nous montrer qu'il comprend notre souffrance. Et ça nous fait du bien. Hein ? Qu'elle accepte la souffrance, qu'elle la partage. Mais là, le psalmiste, il va beaucoup plus loin que ça. Parce que là, il fait une confession. Et parfois, notre souffrance, elle s'enracine dans notre stupidité. Pas tout le temps, bien sûr. Mais parfois, notre souffrance s'enracine dans notre stupidité. Et quant à notre stupidité, la seule chose qui nous intéresse, c'est d'avoir quelqu'un qui tend l'oreille, qui fait du reflet, puis qui comprend notre souffrance, et puis que nous nous arrêtons là, ça ne nous aide pas vraiment à en sortir. Ça nous fait peut-être du bien sur le coup, parce qu'il y a une oreille attentive, il y a quelqu'un qui est capable de comprendre notre souffrance, mais ça ne nous aide pas beaucoup. À un certain moment donné, là, il faut que Dieu nous donne la grâce d'aller plus loin que notre souffrance pour que nous puissions comprendre notre responsabilité dans notre souffrance. Et souvent, ce n'est pas notre responsabilité hein, qui nous intéresse dans notre souffrance. Ce qui nous intéresse, c'est d'en sortir. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une oreille, quelqu'un qui écoute, et quelqu'un qui compatit avec nous, c'est-à-dire qui souffre avec nous. Hein. Compatior, compatir, souffrir avec. C'est ça qui nous intéresse. Et dans ce psaume, ce qui est remarquable, c'est que Asaph dépasse ça. Hein. Même si, évidemment, c'est très important d'avoir quelqu'un à qui parler, qui nous comprend, qui nous écoute, qui nous fait du reflet, qui partage notre souffrance. Bien sûr, c'est important, ça. Mais je pense qu'on a besoin aussi, dans certains cas, d'aller plus loin. Surtout quand la souffrance est causée par notre mauvaise perception des choses. Donc, il est presque devenu comme une bête. Et ça décrit, ces quelques versets que nous venons de voir, la profondeur de la souffrance d'Asaph. Donc, il ne faut surtout pas prendre à la légère. Alors, regardons maintenant les sources du doute. Les sources du doute... Tiens, je suis toujours dans l'introduction, j'ai dû oublier de changer quelque chose à l'écran. Rassurez-vous, nous ne sommes pas dans l'introduction. J'ai fait ça un petit peu cet après-midi, mais après j'ai fait une petite sieste, alors ça doit être la sieste qui m'a un petit peu brouillé l'esprit. Les sources du doute. Et ces sources du doute sont décrites en particulier dans la première partie du psaume, à partir du verset 3. Alors on va les regarder en faisant quelques commentaires. Comme vous remarquez, ce soir, j'ai fait un plan beaucoup plus simple. Mais on va regarder quand même quelques détails à partir du verset 3. Je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Alors là, on est dans un parallélisme un peu plus complexe. Ce n'est pas un parallélisme synonymique, ce n'est pas un parallélisme antithétique, là, mais c'est un parallélisme un petit peu plus complexe. Et comme je vous ai dit samedi, les spécialistes ne s'accordent pas nécessairement sur tous les types de parallélismes qui se retrouvent dans la Bible, enfin dans les livres poétiques. Je portais envie aux insensés. Déjà, l'envie n'est pas un trait de caractère très... très enviable. Hein ? Avoir de l'envie, envier la situation de quelqu'un ou être jaloux des biens de quelqu'un, ce n'est pas une qualité qui est recommandée. Mais là, en plus, il portait envie aux insensés. Déjà, l'expression souligne toute la folie de ce qu'il était en train de vivre. Hein. Porter envie aux insensés. En fait, c'est parfois un petit peu notre expérience. Hein. Nous portons, nous aussi, parfois l'envie aux insensés, aux gens qui ne connaissent pas Dieu, aux gens qui semblent être heureux sans Dieu. Et puis parfois, notre expérience est un peu similaire à celle du psalmiste. Il portait envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Alors, quand on lit tout le psaume, on comprend que le bonheur des méchants, ce n'est pas vraiment le bonheur. Mais comment ça se fait qu'un gars qui aime Dieu, un gars qui s'est purifié devant Dieu, puisse regarder la vie des méchants et qualifier la vie des méchants de bonheur? C'est qu'est-ce qui fait que ce psalmiste, cet auteur, en est arrivé là? Qu'est-ce qui fait que dans notre société, nous regardons les gens qui ne connaissent pas Dieu, nous regardons leur train de vie? Nous regardons peut-être à l'apparence, savez, et nous commençons à envier leur bonheur. Le psalmiste continue en disant « Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort ». Vous voyez comment sa perception est complètement tronquée, il n'y a pas de nuance. Tout est exagéré là. Les termes employés sont exagérés. Bonheur des méchants, ça ne va pas ensemble ça. Il envie des insensés, tu sais, je veux dire, c'est très fort. Rien ne les tourmente, rien. Mais vous voyez l'exagération de la situation dans laquelle se trouve le psalmiste, et c'est souvent la même situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous commençons par exagérer toute notre perception. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Tu sais, quand j'étais à l'hôpital en France, là, il y a quelques semaines, et avec mon père qui est resté dans le département de neurologie pendant plusieurs semaines, et il y a eu plusieurs personnes qui passaient à côté dans le lit à côté de lui, et des gens qui ont eu des AVC aussi. En face, dans le couloir, la chambre d'en face, il y avait une fille de 18 ans en AVC. 18 ans, vous vous rendez compte, là? Ma sœur, elle me dit, papa est un AVC à 86 ans, il a vécu sa vie, là, tu sais. Mais une fille de 18 ans, là, tu sais. Et on voit tout de suite là, qu'elle a des séquelles. Hein. Et je voyais les familles qui venaient visiter les gens qui étaient là. Il y a eu 3-4 personnes dans la même chambre que mon père. Puis je les voyais discuter, tu sais, entre eux. Puis je les regardais, je me disais, mais ils n'ont pas l'air si malheureux que ça. Tu sais, disons, apparemment, là, tu sais. La personne, le père, le mari, vient d'avoir un AVC, certains dans un état moins grave que les autres, tu sais, mais quand même, ils n'ont pas l'air très, très inquiets. Tu sais. Et c'est là que je me suis rappelé qu'il faut regarder au-delà des apparences. Il faut regarder, distinguer l'image que l'on projette de ce qui se passe à l'intérieur de notre cœur. Et ça me fait penser à la publicité que j'avais vue chez un imprimeur. Qui montrait un canard où il semblait tout contrôler. Mais en dessous du niveau de l'eau, ça pédalait, mon ami. C'est comme si là, il perdait contrôle de toute sa vie, mais au-dessus de l'eau, là. Il fallait être cool, là, tu sais. Et puis, tu contrôles tes affaires, tu contrôles ta vie, là, tu sais. Mais c'est ça les apparences, là, tu sais. Qu'est-ce que vivent vraiment les méchants? Est-ce que leur bien fait en sorte que véritablement rien ne les tourmente. C'est socialement, c'est bien être présenté une image. Puis on est dans un monde d'images. Vous pouvez vendre n'importe quoi si vous vous prenez de la bonne façon, vous présentez une bonne image, même si vous êtes un pourri. Et là, le texte nous dit « Leur corps est chargé d'embonpoint ». Donc ça, c'est ce que nous percevons au premier regard, en superficialité. Là. Alors, ils sont repus. Vous savez que la graisse dans l'Ancien Testament, avoir de l'embonpoint, c'est le signe de la prospérité. Tu as de quoi manger, t'es béni. Là, et rien que l'apparence, là, ça démontre, enfin, en apparence bien sûr, qu'ils n'ont pas de soucis, que tout va bien dans leur vie. Et le texte continue, au verset 5, encore des expressions très fortes, absolues un petit peu. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Est-ce que ça se peut, ça? Tu es un être humain, tu sais. Est-ce que ça se peut que quelqu'un vive, et à cause de son style de vie, à cause de ses revenus, il ne puisse pas avoir aucune part aux souffrances humaines? Vous voyez l'exagération de la situation du psalmiste, de sa perception. Il n'est plus réaliste là, dans sa perception. Il a dérapé en quelque part. Il ne peut plus voir les choses de la bonne manière. T'sais. En tous les cas, souvent ça nous arrive dans notre vie, ce genre d'attitude, pas nécessairement associée à cette comparaison que le psalmiste fait avec les méchants, là, t'sais. Mais dans notre vie chrétienne, souvent nous avons des problèmes bien particuliers dans notre vie chrétienne, et parce que nous n'arrivons pas à obtenir la victoire avec le Seigneur, peut-être parce que nous ne sommes pas assez engagés avec Dieu, peut-être parce que nous aimons peut-être un petit peu trop notre petit péché chéri, t'sais. Et à un moment donné, c'est comme si notre perception de la situation, elle change et elle devient complètement tronquée. T'sais. On finit par ne plus penser correctement. Il ne pense plus correctement ici, le psalmiste. Ce n'est pas vrai que des êtres humains n'ont aucune part aux souffrances des humains. Ce n'est pas vrai, c'est impossible, ça fait partie de leur nature. T'sais. Ensuite, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Alors là encore, c'est vrai que peut-être le psalmiste a comparé la situation de certains hommes de Dieu, certaines femmes de Dieu, puis peut-être leurs souffrances, puis il a regardé la vie des méchants, puis dire, là, ils sont pas frappés comme le reste des méchants. Regardez le reste des hommes. Regardez le verset 6. L'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. En tous les cas, mesdames, si un jour vous allez dans une grande soirée, j'espère que ce n'est pas le genre de vêtements ou de parures que vous allez porter, mais c'est quand même une preuve de réalisme dans cette expérience où sa perception est tronquée. Il remarque que l'orgueil leur sert de collier et que la violence est le vêtement qui les enveloppe. Il y a comme une insolence là. C'est, je veux dire, les méchants n'essayent même plus de cacher leur orgueil. Parce qu'un collier, quand tu le mets, c'est pour qu'on le voit. Hein. Généralement, tu ne mets pas un collier sous un col roulé. T'sais. Et le vêtement, évidemment, c'est ce qui frappe l'œil, c'est ce que tu vois. Hein. Et leur vêtement, c'est la violence. Donc, aucune tentative de cacher tout ça, tellement ils sont arrogants dans leur manière de vivre. Et en cela, le psalmiste, malgré son problème, il avait raison. Ensuite, au verset 7, l'iniquité sort de leur entraille, les pensées de leur cœur se font jour. Là encore, nous avons un parallélisme un petit peu. Là, l'iniquité sort de leur entraille, ça veut dire que les entrailles dans la Bible, c'est une image pour parler du centre de la personne. Il y a deux images qui sont employées, c'est le cœur, mais le cœur dans la Bible, ce n'est pas le centre des émotions comme pour nous. T'sais. C'est le centre de la volonté, c'est le centre de la décision. Les entrailles, c'est le centre des émotions. On parle des entrailles de miséricorde dans la Bible. En tout cas, je ne sais pas si vous avez dit des entrailles, mais l'image pour nous ne nous rejoint pas vraiment. Mais dans l'Ancien Testament, les entrailles, c'est vraiment le centre des émotions. Alors, tout leur être entier est corrompu. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ça se dévoile. Hein. Le Seigneur a dit que tu ne peux pas garder les choses secrètes. Tôt ou tard, là, ce qu'il y a dans ton cœur, ça va sortir. Hein. Et en cela, sa perception est bonne. Elle est juste. Hein. Même si, de notre côté, sa perception est tronquée. Au verset 8, il raille, il parle méchamment d'opprimés, il profère des discours hautains. Alors, vous voyez, ça c'est les plans, ce sont les paroles des méchants. Au verset 9, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux. Il y a une expression qui vient à mon esprit, mais ce n'est pas celle-là que je vais dire. Je vais plutôt dire ils ont une grande bouche, hein, pour ne pas dire autre chose. Mais jusqu'aux cieux, vous vous rendez compte? L'arrogance de ces gens-là. Et leur langue se promène sur la terre. C'est-à-dire que il y a beaucoup de médisance, de calomnie. Quand on dit que la langue se promène sur toute la terre, ce n'est pas très positif. T'sais. C'est en tout cas pas les conseils des sages qui se promènent sur la terre. Alors, ils se moquent, ils sont méchants dans leurs propos, ils veulent opprimer, ils sont très hautains. Voilà la description que le psalmiste fait des méchants. Et en cela, évidemment, il a raison. Et bien souvent, quand nous avons des problèmes avec Dieu, nous avons besoin d'un renouvellement de la pensée, comme dit Romains 12, hein, que nous connaissions un renouvellement dans notre pensée. Et souvent, nos problèmes dans la vie spirituelle passent par un renouvellement de nos pensées. Même si parfois, une partie de nos pensées est juste, mais c'est la partie qui est tronquée qui finit par bousiller notre vie. Alors ici, au verset 19, au verset 10, pardon, le psalmiste continue en disant « Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. » Ah ben le peuple se tourne vers eux. Hein? Malgré le fait qu'ils ont une grande bouche, là, puis qu'ils sont arrogants, et puis que leur, ils s'habillent dans de la violence, et puis non, le peuple se tourne vers eux. Et il dit, regardez au verset 11, « Comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtra-t-il ?» Ça, c'est le summum de l'arrogance. Surtout pour le peuple de Dieu. De penser que Dieu ne sait pas qu'on peut lui cacher quoi que ce soit. En fait, je pense qu'on est un peu comme eux. Hein. Surtout quand on a des petits péchés secrets. Là. Parce que si on était convaincu que Dieu nous voyait, alors qu'on est tout seul chez nous, si on était vraiment convaincu que Dieu nous voyait, si on était très convaincu que Dieu nous voyait, peut-être qu'on ferait quelque chose avec ce péché-là. T'sais? Mais souvent, on se dit c'est pas si pire, et puis Dieu va peut-être passer par-dessus. Et puis, finalement, cette idée que Dieu voit tout ne nous affecte même plus, et ce qui fait qu'on continue à pratiquer notre péché. Alors, ainsi sont les méchants, dit le verset 12. Et là, vous avez une généralisation qui résume un petit peu tout ce qu'on vient de voir. Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. Voilà. Alors ça, c'est le constat. Et c'est les sources de son doute. Les sources du doute s'enracinent dans une perspective qui n'est pas juste. Et quand nous doutons, nous avons besoin de changer notre perspective. Nous avons besoin de renouveler notre intelligence. Et ce qui nous aide à renouveler notre intelligence, c'est évidemment la parole de Dieu, mais notamment, dans ce psaume, c'est la rencontre de Dieu lui-même. Quand on va dans sa maison, quand on va dans sa présence, quand on écoute Dieu et que Dieu est capable de mettre le doigt sur nos fausses pensées, sur nos fausses croyances, pour corriger ce doute qui parfois nous assaille. Alors, donc nous venons de voir ces sources du doute, et nous avons, comme nous l'avons dit tout à l'heure, ce verset 13 qui suit en disant « Bon, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur », qui décrit donc la profondeur de ce qu'il ressent. Et le psalmiste est placé dans une situation extrêmement difficile. Il souffre continuellement et il est tenté d'aller dans le chemin des méchants. Et c'est ce qui nous est dit au verset 15. « Si je disais, je veux parler comme eux. Voici, je trahirai la race de tes enfants. Alors là, j'ai placé ce verset-là dans la dernière partie du psaume. C'est ça. Excusez-moi, je suis en retard. J'ai placé ça dans la deuxième partie du psaume. Mais avant la deuxième partie du psaume, j'ai indiqué ici en point 3, vous voyez, je l'ai sauté dans ma présentation, c'est que quand même, il était éloigné de Dieu, puisqu'au verset 17, il nous est dit qu'à un moment donné, il a décidé de se rapprocher de Dieu. Tu sais. Et c'est certainement quand on est éloigné de Dieu, souvent, que notre manière de penser commence à se distorsionner, tu sais, et que nous commençons à avoir des difficultés. Alors, on va regarder maintenant l'antidote au doute. On est toujours dans l'introduction, c'est fantastique. L'antidote au doute, ben on le retrouve dans ce verset 15, qui nous décrit aussi son problème. Parce que son problème, c'est le suivant, c'est que je suis tellement attiré par le mode de vie des méchants que j'ai envie de parler comme eux, j'ai envie d'être comme eux. Mais en même temps, je suis tiraillé parce que j'appartiens à la famille de Dieu, j'appartiens à la race des enfants de Dieu. Et d'appartenir à la famille de Dieu, c'est déjà une partie de l'antidote. Le fait que tu appartiens à la maison de Dieu, à la famille de Dieu, c'est ça qui nous empêche de faire le pas final et de nous comporter comme les méchants. Même si nous doutons profondément, même si nous sommes attirés par le style de vie des méchants. Vous savez, on parle beaucoup de l'influence de la société aujourd'hui. Hein. Comment la société peut nous influencer? Comment, de façon insidieuse, nous pouvons être influencés? On dit que si tu mets une grenouille dans un plat, et puis que tu fais chauffer le tout, là, si tu fais chauffer ça à petit feu, elle se rendra même pas compte que tu es en train de la préparer pour la manger. Tu sais. Et l'influence de la société est un petit peu comme ça. Hein. On est dans un chaudron, là, et puis ça chauffe par en dessous, mais tellement doucement, que finalement on ne se rend pas compte de l'écart que nous prenons jour après jour pour ressembler davantage aux méchants, comme dit le psaume, et nous ne nous rendons pas compte que la vie du méchant nous attire. Et nous avons besoin d'une révolution dans notre façon de penser pour changer carrément de cap et de comprendre les choses comme Dieu les comprend, de voir les choses comme Dieu les voit, d'avoir vraiment une vision chrétienne du monde et non pas une vision païenne du monde ou séculière du monde. Alors donc, un antidote au doute, c'est cette appartenance à la famille de Dieu. Si nous doutons, ne quittons pas la famille de Dieu. C'est, au contraire, rapprochons-nous encore davantage des frères et des sœurs. T'sais. Raffermissons le lien qui nous unit avec la famille de Dieu. Et quand nous sommes tiraillés, si au moins notre conscience nous disait « Non, non, tu ne peux pas céder », parce que si tu cèdes, tu trahis ta famille, tu trahis la famille de Dieu, tu trahis Dieu lui-même. Au verset 16, il nous est dit « Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. » Deuxième antidote au doute, c'est de réfléchir. C'est de réfléchir. Est-ce que nous réfléchissons à ce que nous vivons? Est-ce que nous réfléchissons à l'influence que nous recevons? Est-ce que nous pensons à tout ça, même si c'est une cause de souffrance. Ça peut être une cause de souffrance. Vous savez, si vous enviez la richesse de vos voisins. À côté de chez moi, j'ai une maison. Il y a une maison, puis cette maison-là, elle était la première maison construite sur la rue, dans les années 60. C'était un champ partout. Puis ma maison a été construite en 75. Puis le monsieur qui habitait là, il avait 80 ans ou un peu plus, puis il est décédé il y a à peu près un an ou deux ans. Et ils ont vendu la maison, la famille a vendu la maison, et un contracteur a racheté la maison. Puis il a pratiquement tout mis à terre dans la maison, il a gardé juste les murs, et il a refait le toit, il a refait la couverture, il a refait l'extérieur, tu sais. Et à l'intérieur, il a enlevé le gyproc, il a tout isolé comme il faut, parce que c'est une vieille maison. Tu sais. Puis il en a fait une maison, mais c'était un vrai bijou. Tu sais. En plus, il a fait une chambre supplémentaire sous le garage, au-dessus du garage, avec une salle de bain, tout ça, extraordinaire, une belle maison. Et puis, bon, on commençait à parler. À un moment donné, il m'a demandé si je pouvais lui passer l'électricité, parce qu'il n'avait pas d'électricité pour travailler, tout ça. Bon. Et puis, il me disait, ah, il me dit, est-ce que ça vous intéresserait d'aller voir ma maison? Elle est tellement belle, ma maison. C'est... Et puis, nous, on a une maison qu'on a achetée en 75, et puis elle est restée assez vieille pendant longtemps. Puis on a fait quelques rénovations récemment. Mais vous savez, c'est tellement facile de regarder la maison des autres. Puis, elle est belle, cette maison. Au moins, je me suis consolé en me disant que la présence de cette belle maison à côté de la mienne va peut-être faire monter le prix de la mienne. Mais des voisins m'ont dit l'inverse. Ils m'ont dit la présence de ta maison à côté de la sienne, ça va faire baisser le prix de sa maison. Alors je ne sais plus trop quoi penser. Mais c'est tellement facile. Et puis c'est un couple de médecins qui ont acheté ça. T'sais. La maison, ils l'ont acheté 280 000 dollars, à peu près. Ben, elle était en vente à 280. Bon, je pense que le gars qui l'a acheté pour rénover, il a peut-être payé moins cher. Il a dû faire baisser le prix. Vous savez combien il a vendu après la rénovation? 700 000. C'est vraiment, c'est pas une maison dans la même catégorie que ma maison. C'est. Mais ça te sert... Quand tu vis ces situations-là, c'est important de réfléchir. Puis d'examiner ta façon de penser. Et d'examiner ta façon de penser à la lumière des principes bibliques. À la lumière de la parole de Dieu. À la lumière de ta relation avec Dieu, même si ton insatisfaction pourrait te pousser à t'éloigner de Dieu. Et le psalmiste nous dit ici, j'ai réfléchi là-dessus, puis il dit, c'était dur, la difficulté était grande à mes yeux. Il était vraiment influencé par la vision du monde, le psalmiste là. Et c'est difficile quand tu es là-dedans, là, tu sais. Tu es sur le point de franchir le dernier pas, en même temps tu ne peux pas, tu as un tiraillement intérieur. Et puis, tu as besoin d'une transformation complète de ta façon de penser. Puis là tu vis tout ça. Là, tu vis cette tension-là. La difficulté a été grande, mais il a persévéré. Et le verset 17 nous dit, la difficulté a été grande jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Jusqu'à ce que j'ai pénétré en présence de Dieu. En quelque sorte, le psalmiste a amené ses doutes en présence de Dieu. Il n'y a rien de plus terrible que de vivre dans le doute sans amener tout ça devant Dieu. Le doute en soi, c'est normal. Mais qu'est-ce que tu fais face au doute? C'est là la question cruciale. Qu'est-ce que tu fais face au doute? Et certainement que beaucoup de chrétiens n'auraient pas quitté l'Église s'ils avaient amené leur doute dans les sanctuaires de Dieu, c'est-à-dire en présence de Dieu. C'est-à-dire, Seigneur, je souffre. Seigneur, je souffre dans l'Église. Seigneur, je souffre peut-être à cause des chrétiens dans l'Église. Hein, on a toutes sortes de raisons pour lesquelles on quitte l'Église. Peut-être, Seigneur, je souffre parce que je ne comprends pas ta justice. J'ai l'impression que tu es injuste envers moi, envers ce que je vis par rapport aux autres. T'sais. Comment nous réglons ce genre de questions-là? Ben, le psalmiste nous dit, j'ai réglé ça en venant à la présence de Dieu. Et il nous dit, je suis venu à la présence de Dieu et j'ai pris garde au sort final des méchants. Alors le troisième point, oui, rencontrer Dieu. Et il a pris garde au sort donc des méchants. Il a commencé à réfléchir au sort des méchants et à voir les méchants de la même manière que Dieu les voit. C'est de pouvoir avoir la perception de Dieu sur nos circonstances, sur notre vie, ça nous aide à régler ces situations problématiques dans lesquelles nous pouvons nous trouver. Est-ce que nous avons ce soir la perception de Dieu sur le problème qui est le nôtre? Je ne sais pas quel est votre problème, mais est-ce que vous avez la perception de Dieu face à votre problème, face à votre situation, face à votre défi? Est-ce que vous recherchez la perception de Dieu face à ce que vous vivez? Est-ce que vous rentrez dans sa présence, même si c'est douloureux, même si ça nous secoue, là, cette confrontation entre ma perception qui n'est pas celle de Dieu, d'une part, puis la perception de Dieu d'autre part? Ça secoue. Et ça demande parfois du courage d'accepter d'aller jusqu'au bout pour que Dieu puisse nous changer dans notre façon de penser et que nous puissions connaître le renouvellement de la pensée, comme l'apôtre Paul nous dit. Et au verset 18 à 20, nous avons donc la description, qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà, Nous avons la description de la perspective de Dieu. Nous pouvons le regarder rapidement. Oui, en fait, malgré les apparences, dit le psalmiste, tu places les méchants sur des voies glissantes. Tu les fais tomber. Tu les mets en ruine. Plusieurs années, on parlait d'Amin Dada. Je ne sais pas si vous avez entendu parler en Ouganda d'Amin Dada. Après, c'était Kadhafi. Puis c'est incroyable, hein, la richesse de ces gars-là. Après qu'il y a eu les événements politiques qui les ont fait tomber, là, puis on regarde la richesse de ces gars, le genre de vie qu'ils menaient. T'sais. Mais les gens qui vivaient près d'eux, là, ils ont dû être secoués. T'sais, de voir un petit peu l'opulence, la richesse. Oh, merde, Dieu ne fait rien. T'sais. De toute façon, tout est caché aux yeux de Dieu. Dieu ne voit rien. Mais le psalmiste a une perspective complètement différente maintenant. Il dit, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber, les mets en ruine. En quoi, en un instant, les voies la détruisent. Comment il y a des méchants peuvent tomber du jour au lendemain? Après des décennies de méchanceté, ils peuvent tomber du jour au lendemain. On a un bel exemple à Laval avec notre ancien maire. Du jour au lendemain, tu peux tomber, nous dit la parole de Dieu. Ils sont enlevés, exterminés par une faim soudaine. Et c'est vrai que quand je vois la faim de ces gens-là, et quand on voit leur chute, oh, là, je suis plus attiré par l'envie des insensés. T'sais. Mais combien souvent notre vue est obscurcie. Et continue au verset 20. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. On a déjà parlé de cette image du songe, hein, de la brièveté du songe. Ces gens-là qui semblent être assis sur leur richesse, sur leur méchanceté, sur leur style de vie, sur leur vision du monde, qui semblent régner sur leur propre vie, là. Ce n'est qu'un songe, parce que du jour au lendemain, tu peux partir. Ça, c'est la perspective de Dieu, et c'est la nouvelle perspective du psalmiste. Et au verset 21, il dit ceci, « Lorsque mon cœur s'est grissé, hein, on peut devenir aigri quand on se compare aux autres, quand on veut la vie ou le style de vie des méchants. Quand mon cœur s'est grissé et que je me sentais percé dans mes entrailles. Hein. Je ne l'ai pas cité tout à l'heure, mais ces versets nous décrivent la profondeur de son doute et de sa souffrance. On a cité le verset 22, « J'étais stupide, sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. » Mais là, dans le verset 23, nous revenons à la perspective de Dieu et la réalité du chrétien. « Je suis toujours avec toi, tu m'as saisi la main droite. » Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Dieu va nous conduire par son conseil au verset 24. Et regardez la fin du verset 24. Puis tu me recevras dans ta gloire. C'est beau, hein? Mais on n'y est pas encore dans la gloire de Dieu, là. Et on a toutes sortes d'envies là, qui peuvent surgir devant nous en regardant la vie des uns et des autres autour de nous. Mais regardez la perception du psalmiste qui dépasse sa situation terrestre et qui lui permet d'avoir un coup d'œil sur l'avenir, qui lui permet d'avoir un coup d'œil sur son héritage, l'héritage du chrétien qui va participer à la gloire de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la gloire humaine que l'on peut envier en comparaison de la gloire divine à laquelle Dieu va nous associer quand on va être en sa présence? Vous voyez comme la perspective du psalmiste change complètement là. À la fin de ce passage. Et il termine, au verset 25, il nous dit, « Quel autre ciel ai-je que toi ? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. » Et quel changement, là, tu sais. Quel changement dans la vie de cet homme-là. « Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. » Ça, c'est fort, hein. Quand ta chair et ton cœur se consument. Mais Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Quel changement. Il se consumait de jalousie avant, envers les méchants. Mais là, maintenant, il réalise que même s'il se consume, Dieu reste son rocher. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Le verset au milieu du psaume dit qu'il a résolu son problème quand il s'est approché de Dieu. S'approcher de Dieu, c'est mon bien, c'est ton bien, quel que soit le contexte dans lequel tu vis, quelle que soit la tempête, quelles que soient tes circonstances, m'approcher de Dieu, t'approcher de Dieu, c'est ton bien. Et c'est la raison pour laquelle tu peux placer ton refuge en l'Éternel. Et le texte finit en disant, pour être bien ? Non, non, le verset 28 dit, je place mon refuge dans le Seigneur, pas pour être bien, mais c'est pour raconter toutes tes œuvres. Pour raconter l'œuvre que Dieu fait dans ta vie quand il change ta perspective, quand il change ta façon de voir le monde, quand il change ta vision du monde. Et ce changement est tellement radical qu'il va bouleverser ta vie. On prie ? Seigneur notre Dieu, nous parlons de changement lorsque nous parlons de la vie d'un chrétien et d'une chrétienne. Et nous avons ici l'exemple d'un changement radical dans la vie de quelqu'un. Et peut-être qu'à la lecture de ta parole ce soir, nous comprenons un peu que nous avons besoin de changement dans notre vie. Nous avons besoin d'une nouvelle façon de penser. Nous avons besoin d'un changement radical dans nos pensées, dans la manière de concevoir les choses, de concevoir notre vie, de concevoir notre travail, de concevoir les priorités, de concevoir peut-être ton service, peut-être un changement radical sur notre conception de la vie chrétienne, peut-être même des changements radicaux dans notre théologie, je ne sais pas Seigneur. Mais toujours est-il, tu es le Dieu du changement, du renouvellement des pensées. Et tu le fais pour notre bien. Et Seigneur, nous confessons aussi ce soir que c'est dur pour nous le changement, c'est dur. C'est difficile Seigneur. Ta parole nous dit que c'est impossible de transformer, de changer un cœur de pierre en cœur de chair. Et toi, tu es le spécialiste du renouveau. Tu es le spécialiste du changement de cœur. Et Seigneur, peut-être que ce soir, parmi nous se trouvent des frères et des sœurs qui ont besoin de changements radicaux dans leur vie. Je ne sais pas, Seigneur, dans quel domaine. Mais peut-être que par ton esprit ce soir, tu montres à ces frères et ces sœurs ce besoin fondamental de changement dans leur vie, dans un domaine particulier et même précis. Par ton esprit, Seigneur, tu peux le faire ce soir. Et peut-être que tu le fais pour certains d'entre nous. Seigneur, donne-nous le courage de nous approcher de toi. Parce que tu es le divin médecin. Et même si ça fait mal, tu vas opérer ce changement. Et tu vas nous donner la victoire, Seigneur. Tu vas changer complètement notre perspective face à ce problème, à nos difficultés, à la situation qui est la nôtre, je ne sais pas laquelle, Seigneur, mais toi, tu le sais. Tu vas changer notre vie. Seigneur, c'est ça que tu veux faire. Seigneur, tu es dans le business du changement de vie. Et merci parce que, aussi douloureux que ça peut être, Seigneur, quand nous venons vers toi, tu changes notre vie, mais tu ouvres aussi grand tes bras d'amour. Pour que nous puissions nous reposer en ton amour. Seigneur, ce soir, nous voulons ouvrir notre vie devant toi. En te disant, Seigneur, viens, change ce qui doit être changé. Renouvelle-moi, Seigneur. Seigneur, j'en ai besoin. Et quand on a chanté ensemble de ce besoin de ta présence, qu'on a soif de toi, mais ce n'est pas juste avoir soif pour être avec toi, mais c'est aussi avoir soif de ta transformation, de ta chirurgie divine par laquelle tu veux nous changer complètement. Seigneur, ce soir, oui, change-nous, même si ça fait mal, Seigneur. Change-nous, nous t'en prions. Amen.